On va démarrer l'axe 2 qui s'intitule Les acteurs publics de la transition et leur territoire d'action. Donc, vous voyez le programme sur votre écran. On a deux interventions de deux doctorantes qui sont aussi de l'UMR Passage comme Romain. Donc on voit que l'UMR Passage est très présent sur les questions de transition. Donc on va commencer avec Lénaïque Saliou qui va nous parler de quelle appropriation de la transition pour une collectivité locale. Et puis ensuite Manon Pinga-Charlot qui nous parlera de la problématisation et de l'appropriation de la transition par les acteurs de Citergie. Donc comme tout à l'heure, je vous ferai un petit son pour vous dire quand il vous reste 3 minutes. Donc ça sera certainement quelque chose comme ça. Et ensuite, conclure et puis on passera aux questions. Voilà, donc je laisse la parole à Lénaïque Saliou.
D'accord, bah merci beaucoup. Alors je vais partager ma présentation. Vous allez me dire si vous la voyez.
Oui, c'est bon, on la voit.
Et alors, je vais juste... Voilà. Alors, merci à tous pour l'organisation de cette journée et merci aux interventions de ce matin qui, enfin, moi, ça va faire écho à pas mal de choses qui ont déjà été dites, donc c'est intéressant parce qu'on voit que nos interventions se complètent. Donc, je me présente, donc Lénaïque Saliou, moi, je suis doctorante à l'UMR Passage à Pau. Et je réalise une thèse CIFRE avec la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées sur la mise en œuvre de la transition énergétique à l'échelle locale par l'intermédiaire de son plan climat air énergie territoire. Et donc cette thèse, elle s'inscrit dans un contexte plus général qui a déjà été évoqué un petit peu ce matin, qui est cette urgence climatique, mais notamment aussi énormément cette mise en avant de l'échelle locale pour agir face au changement climatique. Et cette mise en avant de l'échelle locale, on la voit à différents niveaux. On la voit d'abord dans le discours politique, hein, et même ce discours politique à l'échelle nationale. Là, j'avais repris les mots du président Macron qui était venu justement à Pau pour l'inauguration d'un projet vraiment de transition énergétique.
Pardon, Lénaïque, on est sur ta diapo 4, est-ce que c'est normal ?
Non, c'est pas du tout normal. Alors attendez, parce que moi je suis bien sur ma...
Le plein écran ne doit pas fonctionner pour nous, donc si tu peux le remettre en...
Ouais.
Je ne voulais pas interrompre les propos de notre président.
Alors attendez, j'essaye je vais arrêter et remettre en fait. Désolée pour les petits bugs. Alors là, vous voyez ma présentation. Pardon.
Pour l'instant, non. Peut-être que ça va arriver.
Alors, attendez. Je réessaye.
Voilà, c'est bon.
Donc, vous êtes sur la diapo. Du coup, je ne vais pas mettre en plein écran parce que sinon, je crois que ça ne va pas marcher.
C'est ça. Merci.
Super. Comme je disais, une mise en avant de l'échelle locale qui se voit dans le discours politique national, mais également dans le discours politique local, hein, avec, par exemple, j'ai pris l'exemple de cette tribune qui avait été une tribune d'un collectif de maires et de présidents d'agglomération qui avait été faite avant les municipales, il y a presque un an maintenant, justement pour mettre en avant l'idée de mettre en place des COP territoriales à l'échelle des villes, et c'est ce qui existe déjà, hein, dans certaines villes, mais aussi à l'échelle de régions. Cette mise en avant de l'échelle locale dans l'action climatique, moi c'est quelque chose que j'ai vu aussi dans mon état de l'art, hein, dans la recherche, on voit bien qu'il y a beaucoup de travaux qui sont menés sur la question des villes, notamment dans le changement climatique. Et en montrant que ces villes sont à la fois finalement des lieux importants de concentration d'émissions de CO2, mais aussi des lieux d'expérimentation, de la mise en place d'actions face au changement climatique. Pour comprendre aujourd'hui pourquoi la vision un petit peu dominante de la transition tend à être celle d'une transition énergétique locale, il faut revenir sur au problème de départ à partir duquel cette solution de transition énergétique locale a été forgée, et donc à savoir le changement climatique. Il s'agit finalement de comprendre un petit peu l'arrière-plan dans lequel se déploie une telle définition de la transition et par extension l'arrière-plan dans lequel s'insère mon travail de thèse. Et sans rentrer trop dans les détails, il faut bien comprendre la manière dont a été défini le changement climatique de son expertise scientifique jusqu'à sa construction politique. Et donc, on a une expertise scientifique qui se fait dès les années 1970. Je ne vais pas revenir dessus en détail, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette expertise scientifique va avoir un impact sur la manière dont le changement climatique va être construit ensuite de manière politique et comment les solutions derrière vont être construites. Puisque, évidemment, le constat de départ, qui est celui d'une augmentation croissante de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, va mener à finalement ce consensus scientifique qui va se faire. On pourrait penser qu'un consensus politique du coup va logiquement se faire derrière, sauf que quand on dit qu'il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre, s'arrêter juste à cette affirmation, ça revient à occulter tout ce que ça implique derrière, c'est-à-dire changer de modèle énergétique et du coup avec des conséquences derrière qui vont être économiques, politique, sociale. Donc forcément, dès qu'on rentre dans la construction politique d'une solution, on va rentrer dans des choses qui vont être conflictuelles et complexes. Et donc cette construction politique qui s'est faite suite à l'expertise scientifique, alors il y aurait plein de caractéristiques différentes à mettre en avant. Moi, celle que je retiens par rapport au sujet qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la dimension qui concerne l'échelle d'action qui a été considérée dans un premier temps comme pertinente pour traiter ce problème climatique, qui a été donc à l'échelle internationale, puisqu'on parlait d'un problème global. Il y avait cette idée de préoccupation commune de l'humanité, avec un changement climatique finalement qui allait toucher tout le monde de manière indifférenciée. Et ensuite, une deuxième dimension importante qui est quelle est la cible finalement, qu'est-ce qu'on cible en fait dans cette solution. Et donc il y a une pollution vraiment qui est incriminée du fait du constat d'une augmentation croissante de la concentration des émissions de gaz à effet de serre. Et donc on va réduire le changement climatique à un problème de pollution avec derrière une focalisation sur l'énergie. Ensuite, ce qu'on va observer, c'est que on va avoir des décennies de négociations internationales sur le climat depuis 1995, et pour autant, on va voir que dans la réalité, les émissions de gaz à effet de serre, elles continuent d'augmenter, elles atteignent même des records. Et cette disjonction finalement entre une gouvernance globale qui continue de se faire et de se faire au fil des années et à côté une réalité qui, elle, continue d'être marquée par une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, c'est notamment ce que Stéphane Aycout et Inda ont appelé, ils ont nommé ça un petit peu comme un schisme de réalité, c'est-à-dire vraiment ce décalage entre cette gouvernance complexe à l'échelle internationale et cette réalité complexe du monde. Donc, dans les années 2010, on va avoir, les COP vont continuer de se faire, mais au sein des COP, on va avoir un discours qui va évoluer avec un mode d'action qui va évoluer aussi, et finalement une évolution vers un discours qui va mettre en avant une action locale face au changement climatique. Bon, par contre, on va rester toujours sur... finalement, c'est l'échelle de référence qui va être un petit peu revue, mais on va rester quand même sur cette idée de problème de pollution. C'est pourquoi moi je parle aujourd'hui de transition énergétique locale, puisque finalement tout ce que j'ai évoqué là, ça explique un petit peu pourquoi on en est arrivé à une dominante de la transition énergétique locale. Toutefois, si je m'arrête à ce niveau de réflexion, alors ça nous explique pourquoi on en est arrivé là, mais ça ne déconstruit pas justement cette transition énergétique locale. Puisqu'aujourd'hui, et Romain, tout à l'heure dans sa présentation, l'a aussi bien montré, c'est qu'on a une transition, en tout cas, une transition énergétique locale qui devient une évidence, une évidence à deux niveaux. Et la légitimité de cette transition locale n'est pas forcément remise en question. Donc tout d'abord au niveau de la nature de la transition, et là ça rejoint vraiment ce qu'a dit Romain ce matin, avec cette transition énergétique, où là, on est vraiment dans un choix politique, et un choix qui a son sens, hein, bien sûr, puisque il y avait un problème identifié, et donc ce choix était aussi, ça répondait à une nécessité. Ensuite, on a un choix qui s'insère aussi dans des logiques économiques, puisque la transition énergétique, forcément, on voit bien, est source d'opportunités économiques et technologiques. Alors, on le voit notamment avec le développement de nouvelles filières énergétiques, et je pense par exemple à l'hydrogène. C'est un choix aussi, cette transition énergétique, qui va être conflictuelle, puisque on va pouvoir voir dans la réalité que se produisent des conflits au nom de différents modèles de transition. Bah, je pense par exemple à ce conflit qui peut arriver entre écologie et énergie. Et là, je prends l'exemple des parcs éoliens offshore, où on voit que c'est des projets, par exemple, qui vont être mis en place au nom de la transition énergétique, mais derrière, il peut y avoir des oppositions justement au nom de la transition écologique, puisque ces projets peuvent avoir des incidences sur l'environnement. Donc cette transition énergétique, on voit que c'est une transition comme une volonté ambiguë d'un changement contrôlé, et c'est Romain aussi ce matin qui avait parlé de contrôle, et c'est intéressant parce que c'est vraiment l'idée ici, c'est de mettre en avant qu'on décide de faire transition vers un nouveau modèle énergétique, mais sans nécessairement interroger le modèle de société qui sous-tend le problème climatique. Ensuite, donc, l'évidence d'une transition énergétique locale, elle peut être mise en cause et déconstruite aussi au niveau justement de ces modalités de mise en œuvre, puisque tel que je vous ai présenté tout à l'heure un petit peu le passage de l'expertise scientifique à la construction du problème climatique, on aurait eu l'impression que la mise en avant des territoires, elle aurait été, elle serait faite de manière linéaire et que finalement, pendant tout le temps des négociations internationales, localement, il n'y avait rien qui se faisait. Et que l'échelle locale aurait attendu que l'échelle internationale vienne nous dire agissez pour agir, alors que dans les faits, ce n'est pas du tout le cas. On voit que déjà dans le cadre des négociations internationales sur le climat, il y avait déjà des acteurs locaux qui étaient présents. Il y avait notamment beaucoup de villes qui s'organisaient au sein de réseaux de villes pour essayer de faire valoir dans les négociations internationales leurs engagements au niveau local. Hors de ces négociations, on avait aussi des choses qui se faisaient. Hein. Là, j'ai mis plusieurs exemples. Il y a notamment le mouvement des villes en transition, mais même des choses qui n'étaient pas forcément connues. Hein. Et enfin, même de manière institutionnelle, il y avait en France, par exemple, déjà des politiques climatiques locales qui étaient mises en place. On pensait aux agendas 21, au premier plan climat, énergie, territoire. Et donc, enfin, comme je disais, parler d'une action locale inédite, ça laisserait penser, ça dénoterait vraiment une vision descendante de l'action publique avec cette idée que les territoires étaient passifs avant cette injonction qui est venue d'en haut de se mettre en action. Finalement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on assiste davantage à une évolution de la reconnaissance officielle du rôle du local plutôt qu'à une évolution vraiment de ce rôle en lui-même. On n'a pas une action locale qui devient inédite. C'est plutôt la reconnaissance de ce rôle aujourd'hui par d'autres échelles qui est faite. Au niveau de la France, si on s'intéresse vraiment à cette transition énergétique locale en France, on voit que la transition énergétique elle va être instituée par cette loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui là justement, quand on parlait tout à l'heure de contrôle de la transition, va opérer une forme de contrôle. Alors, Romain l'a déjà évoqué aussi à plusieurs reprises, je ne vais pas détailler la loi, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait déjà des choses qui se faisaient en matière de transition énergétique avant, mais qui n'étaient pas forcément labellisées transition énergétique. Et donc, cette loi vient vraiment cadrer les choses et poser les choses avec une définition de la transition énergétique qui va être posée. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va quand même s'inscrire finalement dans une perpétuation un petit peu de ce qui était déjà fait avant, sauf qu'on va l'ancrer et on va faire des choix. Par exemple, on va s'inscrire plutôt dans une réduction du recours aux énergies fossiles plutôt qu'une promotion des énergies renouvelables, puisque ça permet, par exemple, de garder l'énergie nucléaire dans le mix énergétique français. Ce qu'elle apporte, cette loi de transition énergétique au niveau des modalités de mise en œuvre, c'est cette transition énergétique par l'instauration des PCAET. Alors encore une fois, ça ne vient pas non plus mettre en place quelque chose de totalement nouveau, puisque ces PCAET succèdent aux PCET. Donc ce qui change, c'est notamment l'élargissement de l'obligation réglementaire, où là on va passer à une obligation pour tous les EPCI supérieurs à 20 000 habitants. Et on va avoir ce qu'on appelle une approche organisationnelle et une approche territoriale, c'est-à-dire que d'un côté, si vous voulez, ces plans ne vont pas seulement concerner, par exemple, une collectivité locale dans les actions qu'elle va mettre en place sur son patrimoine, sur, par exemple, sa flotte de véhicules à elle. Là, c'est vraiment une approche territoriale, puisque ces PCAET vont devoir vraiment mettre en place des actions qui vont concerner le territoire, et pas seulement la collectivité en tant qu'entité. On a également les deux volets qui vont être atténuation et adaptation, l'introduction du volet R et puis la mise en avant vraiment cette idée de transversalité. Du coup, on peut se demander donc quelle portée concrète de la transition énergétique locale au travers du PCAET. Donc moi, le PCAET qui est mon objet d'étude et plus précisément le PCAET de l'agglomération du Pau. Ce qu'on voit avec tout ce que j'ai dit précédemment, c'est que le PCAET va un peu être une incarnation de cette transition énergétique locale en France, puisque déjà il s'insère dans une loi de transition énergétique. Ensuite, il résulte d'une obligation légale, donc autrement dit, ça vient d'une logique descendante, hein, c'est ce que Romain aussi disait, donc on a vraiment cette idée que finalement le PCAET serait un instrument de l'État pour la mise en œuvre de la transition à l'échelle locale. Mais enfin, ce sont aussi des plans territoriaux qui sont élaborés et mis en œuvre par et pour un territoire. Donc là, on peut se poser justement quelle possibilité de s'en saisir localement au-delà de la réponse juste à une obligation légale. Et ce qui fait que le PCAET est vraiment un objet d'étude par l'intermédiaire duquel on peut étudier la transition énergétique locale. Alors, plus concrètement, quelles implications pour une collectivité locale qui va devoir mettre en œuvre la transition par le PCAET? Alors, ce que je vais vous présenter là, c'est vraiment pas exhaustif, hein, mais c'est quelques éléments. Et surtout, moi, ce que je vois de manière prégnante dans mon cas d'étude, c'est que la chose la plus prégnante, c'est vraiment ce bouleversement de l'action de la collectivité, à la fois dans son fonctionnement interne, puisque, comme je vous ai expliqué précédemment, il y a cette idée de transversalité qui est vraiment importante avec les PCAET, puisqu'ils vont concerner plein de domaines d'action différents. Et dans une collectivité où on est plutôt habitué à fonctionner par politique sectorielle, où chaque service s'occupe de son action, on a le service mobilité, le service eau, chaque service s'occupe de son action et ne dialogue pas forcément avec les autres services. Alors évidemment, ça va dépendre des institutions, des organisations, pardon, mais moi, c'est quelque chose que j'observe beaucoup dans le cadre de la communauté d'agglomération de Pau. Mais aussi, on va avoir une profonde instabilité au sein d'organisations qui va aussi être un frein à cette transversalité, puisque on va avoir des changements d'exécutifs, un turnover qui peut être important au sein des services et une qualité aussi inégale des relations interservices. Du coup, si le service en charge du plan climat n'a pas forcément des bonnes relations avec certains services, forcément, ça va provoquer, ça va être compliqué de mettre en place les actions en question. Ensuite, on a aussi un bouleversement de l'action de la collectivité dans sa relation avec les acteurs du territoire, puisque, comme j'ai dit, avec un PCAET, on touche à une diversité de domaines d'action et on a une approche territoriale. Donc forcément, ça signifie qu'on va devoir impliquer énormément d'acteurs, que ce soit des entreprises, des associations, des citoyens, ce qui rend d'autant plus complexe leur mobilisation, puisqu'il faut procéder aussi à des manières de faire qui sont différentes. Toutefois, on peut s'interroger donc sur la possibilité qu'a une collectivité de se saisir de ce PCAET, par exemple, pour forger un modèle de transition qui serait peut-être différent de celui qui est justement porté initialement par la loi de transition énergétique. Alors moi, c'est pas vraiment ce que j'observe dans mon cas d'étude, même si je vois bien, puisque je ne l'ai pas précisé, mais moi je suis à ma deuxième année de thèse. J'avais fait un stage déjà avant à l'agglomération du Pau, à l'époque de l'élaboration du plan climat, donc j'ai pu suivre quand même un petit peu ce qu'on a fait. Et ce qu'on voit, c'est que ce PCET de Pau, il a été élaboré de manière très techno, très énergétique, dans son document initial. Mais au fur et à mesure, on voit qu'il y a des actions qui vont venir concerner d'autres thématiques. Je pense par exemple à l'agriculture. Donc, c'est un PCET, finalement, peut-être qui pourra évoluer vers un autre modèle de transition. Pour finir, et finalement, en guise d'ouverture de l'action, on voit que finalement, tout ce que j'ai présenté, ça permet de s'interroger sur quelle réelle prise de pouvoir de l'échelle locale dans la transition. Et on peut s'interroger justement sur est-ce que cette transition énergétique locale, elle permet vraiment au territoire d'être dans une logique d'empowerment, ou bien vraiment cette transition énergétique locale qu'on leur dit de mettre en œuvre, est-ce que c'est vraiment une responsabilité encore à endosser, une charge finalement à porter? Et ce que je trouvais intéressant avec ce concept d'empowerment, alors que je n'ai pas encore beaucoup posé, c'est pour ça que je le mets en ouverture, mais c'est que quand on s'y intéresse, on voit qu'il y a deux dimensions intéressantes dans ce concept. Il y a une dimension qui concerne l'état de possession du pouvoir et une seconde qui concerne le processus d'apprentissage du pouvoir. Et donc, si on applique ça un petit peu à la question du pouvoir d'une collectivité locale dans la transition, on va voir que si on s'intéresse au pouvoir qu'elle possède face au changement climatique, en effet, ce pouvoir il semble faible et pour de multiples raisons. Parce que déjà, on a l'ampleur du problème climatique, qui est un problème qui ne peut pas être réglé par une collectivité elle seule, et donc une action locale qui peut sembler insignifiante. Ensuite, on a aussi cette rhétorique de l'urgence climatique, mais finalement, dans les faits, les collectivités, on a beau leur dire qu'il faut agir derrière, elles n'ont pas forcément les moyens financiers, les moyens humains, elles ont aussi des compétences limitées, donc on voit que le pouvoir en tant que possession est assez faible. Cependant, si on s'intéresse au pouvoir en tant que processus d'apprentissage, on voit qu'il permet de changer de regard sur l'action locale en s'intéressant à sa capacité d'expérimentation, au-delà finalement de juste s'intéresser aux résultats de l'action en termes de succès ou d'échec. Et ça, moi, c'est ce que cette approche, en fait, ça rejoint ce que j'ai pu voir moi, dans mon état de l'art et qui est défendu par certains travaux dans le champ des transitions écologiques urbaines. Et je pense notamment à des travaux américains. Qui portent un regard sur les territoires dans leur dimension de laboratoire d'expérimentation de leur transition et qui met en avant leur puissance d'imagination, de créativité et qui s'intéressent plus aux initiatives de transition, même si elles ne réussissent pas forcément derrière. Donc je vais m'arrêter là parce que tout le temps je pense que j'ai même peut-être dépassé. Mais voilà, je voulais finir sur cette ouverture un petit peu, parce que c'est un questionnement très récent, mais qui mérite peut-être d'être posé. Et merci à tous, en tout cas, pour votre attention.
Merci, Lénaïg. Je vais laisser la parole aux personnes qui souhaitent poser des questions. Je vois qu'il y a déjà François Bertrand qui a levé la main. Voilà, donc si d'autres souhaitent poser des questions, levez la main et je vous donnerai la parole. François, je te laisse démarrer. François, tu nous entends? On ne t'entend pas.
Excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Bonjour à tous. Oui, j'avais juste deux, trois réflexions sur la présentation. Donc, je connaissais déjà le travail de Lénaïg. Il y a vraiment une remarque ponctuelle. À un moment, quand tu parles de profonde instabilité des relations entre services, avec les extérieurs, etc., je ne sais pas s'il faut le mettre sur une spécificité de l'action climatique ou sur une donnée de base de l'action territoriale. Oui. Ou alors il faut préciser en quoi l'injonction ou le besoin de transversalité provoque un peu plus d'instabilité. Parce que sinon... C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans tous nos travaux, mais le turnover, la perte d'expertise, le changement des agents, c'est quand même une donnée de fonctionnement des collectivités locales. Sur le cadrage, au début, mais ça je vais faire vite, je trouve que tu vas un petit peu vite sur la question que finalement l'action descendante... ça serait se tromper de dire que l'action climatique, c'est une action descendante. Ça dépend vraiment du pas de temps qu'on regarde. Si on prend des années 90 aux années 2020, il y a bien eu un cadrage international, puis national, puis un atterrissage sur les territoires. Si effectivement, on se met à partir de 2015, c'est différent. De dire qu'il n'y a pas d'action locale inédite, c'est quelque chose qui me choque aussi, que ce soit sur la question énergétique, parce qu'en France, le fait est que ça a été quand même très centralisé et c'est une décentralisation très timide et très progressive, donc c'est quand même un peu inédit pour les collectivités. Et puis sur la question que tu mentionnes moins, mais sur l'adaptation, il y a des questions qui sont quand même, à mon avis, un peu inédites. Et c'est pour ça que les collectivités sont peut-être un peu démunies. Enfin bon, moi je trouve ça, je reviens sur, sur ce que tu ouvres, parce que je trouve ça vraiment intéressant la mise en tension que tu dises que finalement on a des collectivités qui sont très démunies face à un problème qui les dépasse et en même temps qui se retrouvent au premier plan et qui suite, et là aussi il faut vraiment le mettre dans une perspective dynamique, suite aux échecs répétés des négociations internationales, suite au fait que le climat devient un problème public, pas que pour les institutions internationales, pas que pour les institutions nationales, mais maintenant dans le grand public, peut-être parce qu'on est les pieds dans le changement climatique, on est dedans, et c'est quelque chose de très nouveau. Moi, pour moi, les marches pour le climat, etc., c'est vraiment très très récent. En même temps, donc elles sont démunies en termes de pouvoir, et elles nous apparaissent comme le meilleur rempart, ou le, en tout cas, le et là, il y a un vrai paradoxe, que je trouve vraiment intéressant. Après, c'est ton cadrage par la transition énergétique qui fait quand même, il mineure beaucoup les questions d'adaptation. Moi, je me posais la question en t'écoutant, est-ce que les collectivités, elles ont un faible pouvoir, je comprends bien pour la transition énergétique, mais est-ce que leur pouvoir, il est si faible pour l'adaptation, finalement, pour les questions de se dire il va falloir faire avec le changement climatique localement, les collectivités, elles sont quand même assez bien outillées pour faire des solutions assez ciselées en termes d'adaptation, même si le zonage, les risques naturels, elles en ont moins. Voilà. Ce n'était pas des questions, c'était des réactions.
Non, mais merci beaucoup. Juste pour rebondir sur la question de l'adaptation, c'est vrai que oui, je ne l'ai pas évoqué ici, mais... dans ma réflexion, c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais mis comme justement potentiel pouvoir d'action grâce à l'adaptation. Après, moi par contre, dans mon cas d'étude, c'est pas forcément ce que j'observe. Alors, c'est pas forcément que le pouvoir d'action n'est pas là, mais c'est que pour l'instant, en tout cas, la thématique de l'adaptation n'est pas du tout quelque chose qui est beaucoup travaillé.
Voilà. Mais justement, je pense que là, c'est vraiment... ce que tu dis, pour moi, l'aspect qui est vraiment intéressant, c'est l'appropriation symbolique, la mise en débat. Et tu dis bien qu'on a un plan climat qui est vécu un peu comme une obligation réglementaire et qui est rédigé de façon techno, mais qu'au final, les effets, ils vont pas du tout être dans ces indicateurs comptables de combien qu'on a avancé vers la transition énergétique, mais bien comme une réception locale, une compréhension, voire une retraduction de qu'est-ce que ça va être pour nous le changement climatique. Et ça, si c'est pas entré par la porte, ça va quand même entrer par la fenêtre. Donc et que tu commences à le voir ou que tu te dises que c'est une fenêtre pour regarder ça, je trouve ça super intéressant parce que je pense que c'est là qu'il y a des choses à voir. Et Pau, c'est quand même un territoire de montagne. On peut supposer que la question des impacts, elle va arriver ou alors elle passera par ailleurs, je sais pas, mais c'est intéressant justement le cadre plan climat pour dire ça. Et moi, je te parle d'adaptation, mais je trouve ça vachement bien de garder le cadrage. Le plan climat, c'est de la transition énergétique, parce que ça a été cadré comme ça localement, et réglementairement, nationalement, c'est quand même cadré comme ça. Donc, c'est bien.
Merci François. Est-ce que Lénaïque, tu as encore des choses à répondre à...
Non,
je ne
sais pas, je pense que c'est...
Donc Mathilde, je te passe la parole. Si tu arrives à faire ça un peu condensé, ça serait chouette pour qu'on passe à la suite. Merci.
Ouais, moi c'est juste une question un petit peu naïve, mais sur les questions de transition énergétique, je me demandais quel était le focus, plutôt un changement des modes de production énergétique ou une réduction des dépenses énergétiques. Parce que j'avais cru comprendre que sur les enjeux énergétiques, il y avait un peu les deux modèles qu'on pouvait utiliser.
Oui, alors au niveau de la transition énergétique, c'est deux dimensions qui sont importantes. Alors après, il me semble quand même plutôt qu'au niveau, dans un premier temps, ce qui était mis en avant, c'était vraiment la question de l'atténuation du changement climatique, donc plutôt sur des mesures d'atténuation.
Ok.
Ben, merci beaucoup les Naïg et merci aux intervenants, enfin aux questions qui ont été posées.